Léonid Andreïev, La victoire des ténèbres. D'ordinaire, il réussissait dans ses entreprises les plus hasardeuses. Or, depuis 3 jours, les circonstances lui étaient devenues défavorables, sinon hostiles. En homme dont la jeune existence ressemblait à un coup de dé, il connaissait ces brusques variations du sort. Et toujours il en méditait les secrets enseignements. L'enjeu qui risquait quotidiennement, c'était la vie elle-même, la sienne et celle d'autrui. Aussi avait-il appris de bonne heure à se montrer sagace, à penser mûrement et avec calme, et à prendre rapidement une décision. Il fallait qu'il trouvât une issue à sa position actuelle. Un hasard, une de ces éventualités impossibles à prévoir, avait mis la police sur ses traces. Depuis 48 heures, les agents de la sûreté le filaient et tentaient de le capturer dans un réseau toujours plus resserré. L'un après l'autre, les locaux où se réunissaient pour conspirer terroristes et dynamiteurs avaient été découverts par les limiers de la police secrète. Il ne lui restait plus que quelques rues, un ou deux boulevards et des restaurants où il put se réfugier. Mais après 2 nuits blanches, sa fatigue et la tension de son esprit étaient telles qu'il craignait de s'endormir, soit en fiacre, soit sur le banc d'une promenade, et de se faire appréhender stupidement. On était au mardi. Le surlendemain, un attentat terroriste de la plus haute importance devait être accompli. Depuis longtemps, le groupe peu nombreux auquel il appartenait l'avait préparé, et c'était à lui qui était échu l'honneur de lancer un dernier engin, l'engin décisif. Il fallait donc à tout prix qu'il se tirât d'affaire jusque-là. Comme il arrivait au carrefour de 2 rues animées, il décida de se rendre dans une maison publique de la ruelle X. Il avait déjà songé maintes fois à s'y réfugier, bien que l'endroit ne fût pas des meilleurs, mais au moment de franchir le seuil de l'établissement, une gêne invincible l'avait empêché. De tempérament chaste, il répugnait aux voluptés grossières de la débauche. À 26 ans, il ignorait encore les caresses féminines. Sa continence était parfaite. Après avoir soutenu une lutte pénible contre sa chair en révolte, peu à peu il se l'était imposé comme une habitude, et il en était arrivé à considérer la femme avec une sérénité dont il ne se départait jamais. Toutefois, à la pensée d'en affronter une pour qui l'amour était une profession, il se sentit vaguement troublé. Ses maladresses et ses gaucheries probables ne trahiraient-elles pas? Un instant encore, il hésita. Mais son hésitation fut de courte durée, car il chancelait déjà de fatigue. Chapitre 2. Il était encore 10 heures à peine quand il pénétra dans la grande salle blanche aux chaises et aux glaces dorées, déjà prête à recevoir ses hôtes quotidiens. Près du piano à queue, dont le couvercle était relevé, le pianiste, un jeune homme très correct, en redingote noire, les prix de la maison étaient très élevés, secouait les cendres de sa cigarette avec précaution pour ne pas salir ses vêtements et feuilletait des cahiers de musique. Dans un angle, près du petit salon à demi-obscur, 3 filles, assises sur des chaises adossées au mur, causaient à mi-voix. Lorsqu'il entra, en compagnie de la patronne, 2 des filles se levèrent, mais la 3e resta assise. Celle qui s'était avancée était décolletée très bas, tandis que l'autre avait une robe noire montante. Les 2 premières regardèrent l'homme en face, d'un air provoquant, quoique las et indifférent, mais la 3e se détourna. Elle avait un profil doux et simple de fille honnête. Et parce qu'elle se taisait et semblait pensive, parce qu'elle ne regardait pas, et qu'elle seule conservait une attitude correcte, il la choisit. Il ignorait encore que dans tout établissement bien tenu se trouvent une et même plusieurs femmes de ce genre, généralement vêtues de noir comme des nonnes ou de jeunes veuves. Elles ont un visage pâle, sans fard, d'une expression sévère. Leur rôle est de donner l'illusion de la correction à ceux qui la recherchent. Mais lorsqu'elles se sont enivrées avec leurs amants de passage, elles deviennent pareilles aux autres filles, pires même quelquefois. Ce sont des femmes de cette sorte que des étudiants ivres courtisent et qu'ils exhortent à recommencer une existence honnête. Mais il l'ignorait. Et lorsqu'elle se leva à contre-cœur, en le regardant d'un air sombre et mécontent, de ses yeux peints, tandis que son visage d'une pâleur mate prenait une expression encore plus acerbe, il se dit une fois de plus « Oh, qu'elle est donc correcte !» Et il se sentit rasséréné. D'un air avantageux, il se balança sur ses jambes, fit claquer ses doigts et dit à la fille, du ton aisé d'un débauché plein d'expérience, « Eh bien, ma poupoule, montons dans ta chambre, veux-tu? Où est ton nid ?»« Tout de suite ?» fit-elle avec étonnement en levant les sourcils. Il se mit à rire gaiement, découvrant des dents solides, serrées et égales, puis il répondit tout rouge, « Certainement, à quoi bon perdre un temps précieux ?»« On va faire de la musique, nous danserons. »« Bon, qu'est-ce que la danse, ma belle? On tourne bêtement sur soi-même, comme un chien qui veut attraper sa queue. Est-ce que nous n'entendrons pas aussi bien la musique dans ta chambre ?» Elle le regarda et sourit. « Oui, on l'entend un peu. » Il commençait à lui plaire. Il avait un visage large, aux pommettes saillantes et complètement glabres, les joues et une étroite bande au-dessus de ses lèvres fortes bien dessinées étaient d'une teinte bleuâtre. Il avait de beaux yeux noirs, quoiqu'il y eût dans leur expression quelque chose de figé, et qu'ils tournassent dans leurs orbites avec lenteur, comme s'ils parcouraient une grande distance. Cependant, malgré son visage rasé et sa taille svelte, il ne ressemblait pas à un acteur, mais plutôt à un étranger, russifié, à un Anglais. « Tu n'es pas allemand ? » demanda la fille. « Un peu, plutôt anglais. Aimes-tu les Anglais ?»« Comme tu parles bien le russe. » On s'aperçoit pas que tu es étranger. Il se rappela son passeport anglais, le jargon qu'il avait employé les derniers temps, et il s'aperçut qu'il avait oublié de feindre comme il aurait fallu. Il rougit de nouveau en prenant la fille par le bras, il l'entraîna vivement. Je suis russe, russe, entends-tu? Eh bien, par où passe-t-on? Par ici, allez, montre-moi le chemin. Dans le grand miroir qui descendait jusqu'au plancher, le couple qu'il formait se dessina nettement. Lui, grand, large d'épaule, habillé de sombre et pâle comme elle. À la clarté du lustre électrique qui tombait sur lui, son front découvert et ses fermes pommettes, surtout, étaient d'une blancheur frappante, dans laquelle ses yeux semblaient des trous noirs, un peu mystérieux mais beaux. Et ce couple sombre et grave paraissait si étrange entre les parois blanches, dans le large cadre doré du miroir, qu'il s'arrêta étonné et pensa « On dirait des fiancés !» À la vérité, l'insomnie et la fatigue sans doute l'empêchaient de penser raisonnablement, car l'instant d'après, regardant leur image austère et funèbre, il se dit « Bon, c'est comme un enterrement !» Et ces deux réflexions lui furent également désagréables. La jeune femme semblait partager ses impressions. Sans mot dire, elle considérait tour à tour leurs deux images. Étonnée, elle essaya de plisser les paupières, mais le miroir ne refléta pas ce léger mouvement, et continua obstinément et lourdement à représenter un sombre couple immobile. La fille trouva-t-elle que c'était beau, ou se remémora-t-elle un épisode un peu triste de son passé? Toujours est-il qu'elle sourit doucement et serra un peu le bras ferme et replié de son compagnon. « Quel père nous faisons !» s'écria-t-elle, pensive, et ses longs cils noirs et brillants, aux extrémités finement retroussées, devinrent soudain plus apparents. Il ne répondit pas et se remit à marcher d'un air résolu, entraînant la fille, dont les hauts talons Louis XV martelaient le plancher. Ils suivirent un corridor où s'ouvraient de petites chambres obscures, et ils pénétrèrent dans une pièce sur la porte de laquelle on avait tracé en caractères inégaux le nom de Liuba. « Eh bien, Liuba, fit-il en regardant autour de lui et en se frottant les mains l'une contre l'autre, en un geste coutumier, comme s'il les lavait soigneusement dans l'eau froide, « il nous faut du vin et quoi d'autre encore ? Des fruits, peut-être ? Les fruits coûtent cher ici. Qu'importe, buvez-vous du vin ? » Il s'était oublié et lui avait dit « vous ». Mais il ne se reprit pas, car il y avait eu dans l'étreinte de la fille quelque chose qui l'empêchait maintenant de dissimuler et de se montrer familier avec elle. Il sembla que ce sentiment-là aussi était celui de la fille. Elle le regarda fixement, et après un instant de silence, elle répondit avec une hésitation dans la voix et dans le sens des mots prononcés. « Oui, oui, j'en bois. Attendez, je vais en demander. Je commanderai seulement 2 poires et 2 pommes. En aurez-vous assez ?» Elle aussi disait « vous » maintenant. Et dans le ton dont elle prononçait ce mot, se manifestait la même incertitude, une légère hésitation peut-être, une interrogation. Mais il n'y prit pas garde. Resté seul, il se mit à examiner rapidement et à fond toute la pièce. Il essaya la porte, elle fermait bien, accrochée et à clé. Il s'approcha de la fenêtre, ouvrit les 2 cadres. Elle était au 3e étage et donnait sur la cour. Il fit la grimace et hocha la tête. Puis il tenta une expérience avec la lumière. Il y avait 2 lampes. Quand celle du plafond s'éteignait, l'autre, coiffée d'un abat-jour rouge, s'allumait près du lit, comme dans les meilleurs hôtels. Mais le lit ! Il haussa les épaules et découvrit les dents, feignant de rire pour obéir à ce besoin de grimacer qu'éprouvent lorsqu'ils sont seuls ceux qui sont obligés de dissimuler et de se composer un visage. Mais le lit ! Il en fit le tour, tâta la couverture, ouatée, piquée et rejetée en arrière. Brusquement, saisi du désir de faire l'espiègle, heureux à l'avance de pouvoir dormir, il lui fit une grimace d'écolier, tendit les lèvres en avant et écarquilla les yeux pour exprimer le degré suprême de l'étonnement. Mais il redevint presque aussitôt sérieux. Il s'assit et attendit Liuba avec lassitude. Il voulut penser au surlendemain, à cette soirée qu'il passait dans une maison publique, mais ses pensées ne lui obéissaient pas. Et soudain, l'homme se mit à bâiller si furieusement que les larmes lui vinrent aux yeux. Il sortit son Browning ainsi que 3 réservoirs pleins de cartouches. Avec colère, il souffla dans le canon comme dans une clé. Tout était en ordre et il sentit une envie de dormir irrésistible. Lorsqu'on apporta le vin et les fruits, et que Liuba, qui s'était attardé on ne sait pourquoi, revint, il ferma la porte au crochet seulement pour commencer, puis il lui dit « Eh bien, Liuba, buvez, je vous en prie. » « Et vous ? » demanda la fille étonnée en lui jetant un vif coup d'œil oblique. « Oh, je boirai après. Voyez-vous, j'ai fait la noce, 2 nuits de suite, sans dormir, et maintenant... » Il bâillait avec bruit à se décrocher les mâchoires. « Hein? Oh, pas longtemps, une petite heure seulement. Je me réveillerai bientôt. Buvez, je vous en prie, ne vous gênez pas. Et mangez les fruits. Pourquoi en avez-vous pris si peu? Puis-je retourner au salon, on y va faire de la musique. » Ce projet avait des inconvénients. On pouvait parler de lui et deviner peut-être l'identité de cet étrange client, ce qui n'était pas à souhaiter. En réprimant un peu le bâillement qui lui séparait les mâchoires, il répondit d'un ton grave et modéré. « Non, non, Liuba, je vous prie de rester ici. Voyez-vous, je déteste dormir seul dans une chambre. Oh, c'est un caprice, je le sais, excusez-moi. » « Mais comment donc, du moment que vous avez payé ?»« Oui, oui, » dit-il en rougissant pour la troisième fois. « C'est certain, mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. Et si vous voulez, vous pouvez vous coucher aussi. Je vous ferai place. Seulement mettez-vous du côté du mur, s'il vous plaît. Cela ne vous fait rien. »« Mais je ne veux pas dormir. » « Lisez quelque chose. Il n'y a point de livre ici. Bon, voulez-vous le journal d'aujourd'hui? Tenez, je l'ai. Vous y trouverez des choses intéressantes. »« Non, merci. » »« Eh bien, faites ce que vous voudrez. Vous le savez mieux que moi. » Et il ferma la porte à double tour, puis mit la clé dans sa poche. Il ne remarqua pas le regard singulier dont la fille le suivit. D'ailleurs, toute cette conversation correcte et polie, si étrange pourtant en pareil lieu, lui semblait naturelle et tout à fait convaincante. Toujours avec la même politesse, comme s'il se fût promené en barque avec des demoiselles, il entr'ouvrit légèrement son veston et demanda « Vous me permettez d'enlever mon veston ?» La jeune fille fronça un peu les sourcils. « Je vous en prie, enfin vous... » Mais elle n'acheva pas sa phrase. « Et mon gilet ?» Liuba ne répondit pas et haussa les épaules imperceptiblement. « Voici mon portefeuille, mon argent. Voulez-vous avoir l'obligeant de le mettre en lieu sûr ?» « Déposez-le vous-même au bureau, c'est ce que font généralement nos clients. Pourquoi ?» Il jeta un coup d'œil sur Liuba et détourna le regard avec embarras. « Ah oui, je comprends. Bon, ce sont des bêtises. Savez-vous combien vous avez d'argent? Il y en a qui ne le savent pas, et après... Oh, « je le sais. Mais pourquoi pensez-vous à des choses pareilles ?» Il se coucha, lui laissant poliment une place contre le mur. Soudain, il se mit à rire. « Pourquoi riez-vous ? » demanda la fille avec un sourire contraint. « Parce que je suis bien. Quels oreilleux moelleux vous avez ! Maintenant, on pourrait peut-être un peu causer. Pourquoi ne buvez-vous pas ? Puis-je enlever mon corsage ? Vous me le permettez, sinon l'attente me paraîtra longue. » Une légère ironie perçait dans sa voix. Mais lorsqu'elle eut rencontré son regard confiant, et lorsqu'elle l'eut entendu lui répondre avec douceur, « mais oui, je vous en prie. » Elle expliqua, grave et simple, « Mon corset est trop serré, il me laisse des traces sur le corps. »« Mais oui, je vous en prie. » Il se détourna un peu et rougit de nouveau. Était-ce parce que l'insomnie troublait ses pensées, ou bien parce qu'à 26 ans, il était resté chaste et naïf? Toujours est-il que ce « puis-je » lui parut naturel dans une maison où tout semble permis. On entendit un froufrou de soie et le bruit d'un buste décroché. Puis une question. « Ne seriez-vous pas écrivain ? Moi, un écrivain au parlement du monde. Et pourquoi demandez-vous cela? Vous aimez les écrivains? Au contraire. Pourtant, ce ne sont pas, il bâilla longuement et avec délice, de mauvais gens. Et comment vous appelez-vous? Le silence, puis une réponse ensommeillée. Appelez-moi Yves, non, Pierre, Pierre. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous donc? La fille parlait bas, mais avec fermeté, en le guettant. Et d'après le son de sa voix, il semblait qu'elle se fût rapprochée soudain du dormeur. Mais il ne l'entendit plus. Il était assoupi. Il dormit ainsi une heure, deux heures, sur le dos, dans l'attitude correcte qu'il avait prise en se couchant, sa main droite plongée dans la poche où se trouvaient la clé et le revolver. Assise en face de lui, les bras et la gorge nus, la fille fumait, buvait du cognac sans se presser et le regardait fixement. Parfois, pour mieux le voir, elle tendait son cou mince et flexible, et en même temps, deux plis profonds étendus se formaient alors au coin de ses lèvres. Il avait oublié d'éteindre la lampe du plafond, et sous la clarté crue, il n'apparaissait ni jeune ni vieux, ni étranger ni proche, mais totalement inconnu. Son épaisse chevelure noire était tondue de près, à l'ordonnance. Sur la tempe gauche, près de l'œil, se trouvait une petite cicatrice blanchâtre, provenant d'on ne sait quelle contusion. Il ne portait point de croix ni de médaille bénite au cou. Dans le grand salon du bas, la musique se faisait entendre. Mêlés au piétinement des danseurs, les sons du piano et du violon parvenaient jusqu'à Liuba, qui, la cigarette aux lèvres, contemplait avidement le dormeur. Le cou tendu, elle se mit à étudier avec attention la main gauche que l'homme avait posée sur sa poitrine. Très large de paume, avec des doigts solides et tranquilles, elle produisait l'impression de quelque chose de pesant qui accablait douloureusement la poitrine. D'un geste précautionneux, la fille la posa le long du corps sur le drap. Puis elle se leva vivement et avec bruit, elle tourna violemment le commutateur comme si elle voulait le briser, éteignit la lampe du plafond en allumant celle du lit sous l'abat-jour rouge. L'homme ne bougea pas, et son visage rosé resta inconnu, effrayant d'immobilité et de calme. Liuba entoura ses genoux de ses bras nus délicatement teintés de rose, rejeta la tête en arrière et fixa au plafond les trous noirs de ses yeux immobiles. Et ses dents serraient avec force une cigarette inachevée et éteinte. Chapitre 3. Quelque chose de menaçant et d'inattendu s'était produit. Quelque chose d'important et de terrible s'était passé pendant qu'il dormait. Il le comprit du coup, avant même de s'être bien réveillé, dès qu'il eut entendu une voix rauque et inconnue. Il le comprit par cette intuition affinée du danger, qui était comme un nouveau sens chez ses camarades et chez lui. Il posa rapidement les pieds à terre et s'assit. Sa main serra avec force le revolver, tandis que ses yeux fouillaient vigilamment le brouillard rose qui planait dans la chambre. Lorsqu'il vit la fille, assise dans la même attitude, les bras nus et la gorge d'une roseur transparente, le regard assombri, énigmatique et fixe, il pensa « elle m'a trahi ». Il l'observa avec plus d'attention, respira profondément et se reprit. Elle ne m'a pas encore trahi, mais elle va le faire. Il respira de nouveau et demanda brièvement. Eh bien, qu'y a-t-il? Elle sourit d'un sourire hostile et triomphant. En le regardant sans mot dire, il semblait qu'elle le considérait déjà comme lui appartenant et que, sans hâte, elle voulait jouir de son pouvoir. Qu'y a-t-il ? Répéta-t-il en fronçant les sourcils. Rien, lève-toi. Tu as assez dormi. Il y a une fin pour tout. On n'est pas à l'asile de nuit ici, mon petit. Allume la lampe, ordonna-t-il. Non. Il tourna le commutateur. À la clarté blanche de l'électricité, il vit alors ses yeux fardés, à l'expression indiciblement haineuse, et sa bouche pincée par le mépris et la colère. Il la vit étrangère, résolue, prête à accomplir quelque chose d'irrévocable. Et il trouva cette fille odieuse. « Qu'as-tu ? Es-tu ivre ? » demanda-t-il d'une voix grave et inquiète, et il étendit la main pour prendre son faux col. Mais elle prévint son geste, s'empara du faux col et le lança sans regarder dans un coin derrière la commode. « Je ne te le donnerai pas. »« Qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria-t-il d'une voix étouffée. Et il serra la main de la femme d'une étreinte telle que les doigts fluets se détendirent, s'allongèrent. « Laisse-moi, tu me fais mal !» gémit Liouba. Il desserra son étreinte et gronda. « Prends garde !»« À quoi, mon petit ? Tu veux me tuer, n'est-ce pas ? Qu'as-tu dans la poche ? Dis, un revolver ? Eh bien, tire, que je vois comment tu me tueras. Voyez-vous ça ? Monsieur vient chez une femme, il se couche en disant « Bois, moi je dormirai. » Penses-tu donc que c'est parce que tu es rasé et tondu que personne ne te reconnaîtra ? Et au poste, veux-tu y aller ? Peux-tu aller au poste, dis, mon petit ? » Et elle se mit à rire bruyamment, gaiement. Transi d'horreur, il contempla le visage de Liouba qui s'éclairait d'une joie sauvage et désordonnée. On eût dit qu'elle devenait folle. Sa terreur grandit encore à l'idée que tout échouait misérablement et qu'il faudrait commettre un assassinat stupide, puis périr quand même, selon toute probabilité. Livide, bien que calme et résolu d'aspect, il la regardait, guettant chacun de ses gestes, tout en combinant à la hâte un plan d'action. « Eh bien, pourquoi ne réponds-tu pas ? La peur t'a fait perdre la langue ?» Il fallait saisir ce cou flexible comme un serpent et le serrer. Elle n'aurait sûrement pas le temps de crier. Certes, il n'éprouvait pour elle aucune pitié, mais que trouverait-il en bas dans la rue ? « Sais-tu qui je suis, Liouba ?»« Oui, tu es un... » Et elle prononça d'un ton ferme et un peu solennel, en scandant les syllabes, « un terroriste !»« Et comment le sais-tu ? » Elle eut un sourire ironique. Oh, « Nous ne sommes pas des imbéciles. »« Enfin, admettons. »« Oui, admettons. Mais lâche-moi d'abord. »« Vous êtes tous les mêmes quand il s'agit d'abuser de votre force avec les femmes. » Il obéit et s'assit en regardant la fille avec une tristesse morne et obstinée. Dans ses pommettes, quelque chose remuait, mais tout le reste de son visage était calme, grave et un peu douloureux. « Eh bien, quand tu auras fini de me dévisager ?» cria la fille avec colère. Il leva les sourcils avec étonnement, mais sans détourner le regard, il se mit à parler d'une voix un peu sourde et étrangère, comme s'il était à une très grande distance. « Écoute, Liouba, tu peux me livrer, c'est certain, et tu n'es pas la seule qui puisse le faire. » Tous les êtres qui vivent dans cette maison, chaque passant dans la rue, peuvent me trahir. Il suffit de crier « Arrêtez-le !» pour qu'aussitôt des dizaines, des centaines de gens s'assemblent pour m'appréhender, me tuer même. Et pourquoi cela ? Simplement parce que je n'ai fait de mal à personne, parce que j'ai consacré ma vie au bonheur de ces mêmes gens. Comprends-tu ce que cela signifie, consacrer sa vie ? « Non, je ne comprends pas, » répondit la fille avec rudesse, mais elle écoutait attentivement. « Et les uns le feront par méchanceté, les autres par bêtise, parce que les mauvais n'aiment pas les bons, Liouba. Les méchants n'aiment pas les bons. »« Et pourquoi les aimerait-on ? Ne pense pas que je me vante à dessein, Liuba. Qu'est-ce qu'a été ma vie tout entière? Depuis l'âge de 14 ans, je rôde de prison en prison. On m'a chassé du lycée, on m'a chassé de la maison maternelle. Un jour, j'ai failli être fusillé. Je n'ai échappé à la mort que par miracle. Quand je pense que j'ai vécu ainsi pour les autres, jamais pour moi, jamais. Et pourquoi es-tu si bon? Demanda la fille avec ironie. Il répondit gravement. Je n'en sais rien, je suis né ainsi, probablement. Eh bien, moi, je suis né mauvaise. Pourtant, nous sommes venus au monde de la même manière, la tête la première. N'est-ce pas vrai? Mais on lui dit qu'il n'avait pas entendu. Continuant à regarder au-dedans de lui-même, dans son passé qui se dressait devant lui d'une manière si inattendue dans son héroïque simplicité, il reprit. « Écoute-moi, Liuba, j'ai 26 ans. J'ai déjà les cheveux gris aux tempes, et pourtant, le croiras-tu ?» Il hésita un peu, puis il continua d'une voix ferme et même un peu hautaine. « Et pourtant, je ne sais pas encore ce que c'est qu'une femme. Pas du tout, m'entends-tu? Tu es la première que je vois ainsi. Et à dire le vrai, j'ai un peu honte de regarder tes bras nus. » De nouveau, la musique se déchaîna avec fracas et les piétinements des danseurs firent trembler le plancher. Un de ceux qui étaient ivres se mit à pousser des cris frénétiques comme pour rassembler un troupeau de chevaux furieux. Dans la chambre, tout était tranquille. La fumée du tabac s'étirait voluptueusement en brouillard doré, puis se dissipait. « Voilà quelle est ma vie, Liuba !» Et il baissa la tête, l'air grave et pensif, vaincu par le souvenir de cette existence si pure et belle comme celle d'un martyr. Liuba garda le silence, se leva et jeta un fichu sur ses épaules nues. Mais lorsqu'elle eut rencontré le regard surpris et comme reconnaissant de l'homme, elle ricana, arracha vivement le fichu et arrangea sa chemise de manière à ce qu'un de ses seins fût complètement découvert. Il se détourna et haussa un peu les épaules. « Bois !» dit la fille. « Ne fais donc plus d'embarras. Je ne veux pas boire. »« Tu ne veux pas boire ? Eh bien, moi, je boirai. » Et elle eut un mauvais rire. « Si tu as des cigarettes, j'en prendrai. Les miennes sont mauvaises. Que m'importe ?» Quand il eut pris une cigarette, il remarqua avec plaisir que Liuba avait remonté sa chemise et il conçut l'espoir que tout s'arrangerait. Il fumait mal, sans aspirer, et tenait sa cigarette comme le font les femmes, entre deux doigts, nerveusement tendus. « Mais tu ne sais même pas fumer !» s'écria la fille, et elle lui arracha la cigarette des mains d'un geste brutal. « Laisse ça !»« Oh, tu te fâches de nouveau !»« Certainement. Et pourquoi, Liuba? Réfléchis donc. C'est vrai que je n'ai pas donné les deux dernières nuits, les deux dernières nuits. J'ai couru par la ville comme un loup traqué. Si tu me livres, on m'arrêtera. Quel plaisir en auras-tu? Et je ne me rendrai pas avant, Liuba. Pas vivant. » Il se tut. Tu tireras? Oui, je tirerai. La musique avait cessé, mais l'ivrogne affolé par l'alcool continuait à pousser des cris affreux. Quelqu'un essayait de lui fermer la bouche avec la main, soit pour plaisanter, soit sérieusement, et le son, en sifflant entre les doigts, devenait encore plus terrible et sauvage. Dans la chambre flottait une odeur épaisse et moite de savon à bon marché. Au mur, des jupes et des corsages pendaient, fripés et aplatis, sans un rideau pour les recouvrir. Et ce spectacle était si répugnant, la pensée que toutes ces choses participaient de la vie était si douloureuse qu'il haussa les épaules avec pitié et regarda encore une fois autour de lui. « Comme c'est drôle, chez vous !» dit-il pensivement et son regard se posa sur Liuba. « Pourquoi ? » fit-elle brièvement. Devant l'attitude de la femme, il comprit qu'il fallait avoir pitié d'elle. Et dès qu'il l'eut compris, il la plaignit sincèrement. Pauvre Liuba, tu dis, donne-moi la main. Et pour montrer à la fille qu'il estimait en elle l'être humain, il lui prit la main et la porta respectueusement à ses lèvres. C'est à moi que tu fais cela? Oui, Liuba, à toi. Et tout à fait bas, comme pour remercier la fille, dit, va-t'en, va-t'en donc, imbécile. Il ne comprit pas du coup. Quoi? Mais va-t'en, va-t'en d'ici, fiche le camp. À grands pas, sans mot dire, elle traversa la pièce, ramassa le faux-col dans un coin et le lui lança avec une expression de dégoût intense, comme si c'eût été le chiffon le plus souillé, le plus malpropre qu'elle eût trouvé. Sans rien dire, sans honorer la fille d'un regard, plein de dignité, il remit son col, lentement et tranquillement. Mais l'instant d'après, avec un glapissement sauvage, Liuba le frappa avec violence sur sa joue glabre. Le faux col roula à terre et l'homme chancela. Très pâle, presque bleu, mais sans se départir de son calme, avec le même air altier, il fixa sur Liuba ses yeux pesants et immobiles. « Eh bien » souffla-t-elle. Il continuait à la fixer sans répondre. Complètement affolé par cette impassibilité hautaine, terrifié, perdant l'esprit comme devant une sourde muraille de pierre, la fille le prit par les épaules et l'assit avec force sur le lit. Puis se penchant tout près de lui, vers son visage, vers ses yeux, elle haleta. « Eh bien, pourquoi ne dis-tu rien? Que vas-tu faire de moi, canaille? Me baiser la main? Tu viens faire le fanfaron ici? Exhiber ta beauté? Mais que fais-tu donc de moi, pauvre malheureuse que je suis ?» Elle le secouait par les épaules et ses doigts minces, en se serrant et se desserrant inconsciemment comme ceux d'un chat, le griffait à travers sa chemise. « Il n'a jamais eu de femme, dis-tu. Mais c'est à moi que tu oses dire cela. À moi que tous les hommes, tous, enfin. Es-tu donc inconscient pour me parler ainsi? Je ne me rendrai pas vivant, proclames-tu. Eh bien, moi, je suis morte, comprends-tu cela, bandit? Je suis morte et je te le crache à la figure. Tiens, vivant. Tiens, canaille, tiens !» Avec une fureur qu'il ne pouvait plus contenir, il la poussa loin de lui et elle alla donner de la nuque contre le mur. Il ne raisonnait déjà plus bien, sans doute, car son geste suivant, tout aussi rapide et résolu, fut de sortir son revolver, et il sembla qu'une bouche noire s'était mise à sourire. Mais la fille ne voyait ni le visage grimaçant de colère folle, ni l'arme menaçante. Cachant ses yeux sous ses mains, comme pour les enfoncer dans son crâne, elle traversa la chambre à grands pas rapides et se jeta sur le lit, le visage sur les oreillers. Et elle se mit aussitôt à sangloter silencieusement. Ce qu'il attendait ne se produisait pas. Il n'arrivait que des choses stupides et insensées. Il haussa les épaules, cacha dans sa poche son arme inutile et se mit à aller venir dans la chambre. La fille pleurait. Les mains dans les poches, il s'arrêta près d'elle et la regarda. Couchée sur le ventre, la femme sanglotait éperdument dans une affreuse crise d'hystérie. Ses omoplates pointues et nues se rejoignaient presque par moments, comme si on eût mis sous la poitrine de Liuba des charbons ardents. Puis elle se séparait lentement, comme si la femme s'en fût allée, on ne sait où, ou en serrant sa douleur contre son sein. La musique avait recommencé, des officiers étaient venus, sans doute, car on entendit un cliquetis d'éperon. Jamais encore il n'avait vu pleurer de la sorte. Aussi en était-il troublé. Sans savoir pourquoi, il sortit les mains de ses poches et dit tout bas « Liouba !» Elle pleurait « Liouba, qu'as-tu, Liouba ?» Elle répondit, mais si bas qu'il n'entendit pas. Il s'assit à côté du lit, pencha vers elle sa grosse tête rase et posa la main sur les épaules de la femme, et sa main se mit à trembler follement, comme tremblaient les pauvres épaules nues. « Je ne te comprends pas ce que tu dis, Liouba !» Et une voix lointaine, sourde, pleine de larmes, implora. « On ne t'en va pas encore. Il y a des officiers, ils peuvent te... Oh, mon Dieu, mon Dieu !» Elle s'assit vivement sur le lit et resta immobile, après avoir battu des mains, les yeux écarquillés, fixant l'espace avec terreur. Ce fut un regard effrayant, il ne dura qu'un instant. Elle se jeta de nouveau sur les oreillers et recommença à pleurer. Au salon, les éperons cliquetaient en cadence, et le pianiste, excité ou effrayé peut-être, marquait avec zèle le rythme de la danse entraînante. « Bois un peu d'eau, Liouba, allons boire, je t'en prie !» chuchota-t-il en se penchant vers elle. Mais l'oreille de la femme était cachée par les cheveux, et craignant qu'elle ne l'entendît pas, il écarta doucement les mèches noires un peu bouclées, desséchées par le fer, et découvrit une petite coquille rouge et ardente. « Bois, je t'en prie !»« Non, je ne veux pas, c'est inutile. Ça passera comme ça. » Elle se cachait, en effet. Les sanglots cessèrent peu à peu. Elle eut ensuite un long gémissement assourdi, puis les épaules ne tremblèrent plus et restèrent immobiles, comme profondément pensives. Il caressait doucement la femme depuis le cou jusqu'à la dentelle de la chemise et recommençait. « Es-tu mieux, Liouba ?» Elle ne répondit pas, poussa un profond soupir et, se tournant, elle lui jeta un coup d'œil rapide. Puis elle posa les pieds à terre et s'assit à côté de lui. Après avoir soupiré de nouveau, elle posa sa tête sur l'épaule de l'homme, en un geste simple et doux, et avec la même simplicité, il l'enlaça et l'attira un peu à lui. Il n'était plus troublé de sentir que ses doigts touchaient l'épaule nue. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler, fixant devant eux le regard de leurs yeux assombris qui s'étaient tout à coup cernés. Ils soupiraient. Soudain, des bruits de pas et des voix résonnèrent dans le corridor. Des éperons cliquetèrent doucement, et tous ces sons se rapprochèrent et s'arrêtèrent devant la porte. Il se leva vivement. On frappait déjà à lui, et d'abord avec les doigts, puis à coups de poing, et la voix rauque d'une femme criait « Liouba, ouvre !»
Chapitre 4. Il la regarda et attendit. « Donne-moi un mouchoir, » dit-elle sans jeter les yeux sur lui, et elle tendit la main. Elle s'essuya soigneusement le visage, se moucha avec bruit, lança le mouchoir sur les genoux de son compagnon et se dirigea vers la porte. Il la suivait des yeux et attendait. En passant, Liouba tourna le commutateur et il fit tout à coup si sombre que l'homme entendit le bruit de sa propre respiration un peu oppressée. Et sans savoir pourquoi, il se rassit sur le lit qui grinça un peu.
« Eh bien, qu'y a-t-il? Que voulez-vous ? » demanda Liouba à travers la porte, sans ouvrir, et sa voix calme trahissait un secret mécontentement. Plusieurs voix féminines s'élevèrent à la fois, s'interrompant l'une l'autre, et toutes s'interrompirent ensemble lorsqu'une voix masculine demanda quelque chose en insistant, avec une politesse étrange. « Non, je ne veux pas !»
Les voix résonnèrent de nouveau et de nouveau, les coupant comme des ciseaux tranchant un fil de soie dévidé, s'éleva la voix masculine, jeune et persuasive. Des éperons cliquetèrent nettement, comme si celui qui parlait avait salué. Et chose étrange, Liouba se mit à rire.
« Non, 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 je n'irai pas. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous avez beau me donner de gentils petits noms, je dirai quand même pas. » Encore des rires, des jurons, un cliquetis d'éperons, et tout s'éloigna de la porte pour mourir on ne sait où au fond du corridor. Trouvant dans l'obscurité le genou de son compagnon, Liouba s'assit à côté de lui, mais elle ne replaça plus sa tête sur son épaule. Elle expliqua brièvement. « Les officiers organisent un bal, ils invitent tout le monde, on dansera le cotillon. »« Liouba, » demanda-t-il d'une voix caressante, « donne-nous de la lumière, je t'en prie. » Sans mot dire, elle se leva et tourna le commutateur. Mais au lieu de s'asseoir à côté de lui, elle reprit sa place sur une chaise en face du lit, de l'air renfrogné d'une maîtresse de maison qui a des visiteurs ennuyeux et lents à partir. « Vous n'êtes pas fâché contre moi, Liouba. »«
Pourquoi le serais-je ? » ?»«
Mais j'ai été très étonné de vous entendre rire si gaiement à l'instant. Comment cela vous est-il possible ?» Elle rit sans le regarder. « Oui, c'est amusant, et je ris, voilà tout. Mais vous ne pouvez pas vous en aller tout de suite. Il faut attendre que les officiers soient partis, ou ils ne resteront pas longtemps. »«
J'attendrai. Merci, Liouba. »
Elle eut de nouveau un petit rire.
« Merci de quoi ? Comme vous êtes poli. »
« Cela vous plaît ?
Non, pas beaucoup. À quelle classe appartenez-vous ? »
« Mon père était docteur, médecin militaire. Mon grand-père était paysan. Nous sommes des vieux croyants. »
Liouba le regarda avec quelque intérêt. « Tiens, et vous ne portez pas de croix au cou ?»
« Une croix, » fit-il en souriant, « nous portons notre croix sur le dos. » La jeune fille fronça un peu les sourcils.
« Vous vouliez dormir. » « Eh bien, au lieu de bavarder, vous feriez mieux de vous coucher. »
« Non, non, je ne veux pas me coucher, je ne veux plus dormir. »
« Alors, comme vous voudrez. »
Il y eut un long silence embarrassé. Liouba regardait à terre d'un air déconcerté. Des yeux, il faisait le tour de la chambre, évitant chaque fois avec soin le regard de la femme. Le silence devenait pénible. Il demanda « Et pourquoi ne buvez-vous pas ?» Elle tressaillit « Quoi ? Buvez donc, Liouba, pourquoi ne buvez-vous pas ?»«
Je ne veux pas boire seul. »
Ah. Par malheur, je ne bois pas d'alcool. » La fille ne répondit rien et se détourna. Mais elle surprit le regard de l'homme posé sur ses épaules nues et elle se couvrit d'un fichu tricoté en laine grise.
« Il fait froid, » dit-elle d'une voix saccadée.
« Oui, un peu, » acquiesça-t-il, quoiqu'il fît chaud dans la chambrette. De nouveau régna un long silence embarrassé. Du salon arrivaient les sons bruyants et entraînants d'une ritournelle. « Il danse, » dit-il.
« Oui, »
répondit-elle. « Mais pourquoi vous êtes-vous emporté contre moi, Liouba ? Pourquoi m'avez-vous frappé ?» La fille répondit avec rudesse après un instant de silence.
« Il le fallait. Je ne vous ai pas tué, n'est-ce pas ?»
Elle eut un mauvais rire. Elle avait dit « Il le fallait. » Elle le regardait en face, de ses yeux noirs cernés en souriant d'un sourire pâle et décidé. Il était difficile à l'homme de croire que cette tête irritée et pâle était celle qui s'était posée sur son épaule quelques minutes auparavant, celle qu'il avait caressée. « Ah, c'est cela !» dit-il d'une voix sombre. Il se mit à arpenter la pièce sans faire un pas vers elle, et quand il reprit sa place, il avait un air sévère, froid et un peu hautain. Les sourcils levés, il regarda au plafond où jouait une tache claire au bord rose. Quelque chose de petit, de noir, voletait, sans doute une mouche d'automne attardée, et que la chaleur avait ranimée. La fille se mit à rire bruyamment. « Qu'est-ce qui vous amuse ? » fit-il en la regardant avec froideur. Puis il se détourna.
« Rien, mais vous avez tout de même l'air d'un écrivain.
Cela ne vous fâche pas que je vous le dise. Eux aussi, ils commencent à prendre les gens en pitié, et ensuite ils s'irritent parce qu'on ne les adore pas comme des images saintes. Ils sont si susceptibles. S'ils étaient dieux, ils ne nous feraient pas grâce d'un seul cierge. Et d'où connaissez-vous les écrivains, vous qui ne lisez rien ?
Ben, il y en a un qui vient ici, répliqua Liouba.
Il se mit à réfléchir, en fixant sur elle un regard immobile, lourd, investigateur, trop calme même. En homme dont toute la vie n'a été qu'une lutte, il avait le vague sentiment que Liouba était une âme rebelle, ce qui le troublait et le poussait à chercher pourquoi la colère de la fille s'était portée sur lui. Ses relations avec des écrivains, sa conduite qui pouvait être si correcte et si digne par moments, ses paroles haineuses, tout cela la relevait involontairement aux yeux de l'homme et donnait au soufflet qu'elle lui avait lancé un caractère beaucoup plus grave et plus sérieux qu'une simple incartade de prostituée hystérique à demi-ivre. Simplement irrité, mais nullement offensé au premier abord, il se sentait à présent blessé, et pas rien qu'en esprit. « Mais pourquoi m'avez-vous frappé, Liouba ? Quand on soufflette quelqu'un, on doit lui dire pourquoi ?» répéta-t-il d'une voix sombre et insistante. Et dans ses pommettes saillantes, sur son front pesant qui écrasait les yeux, il y avait l'obstination et la dureté de la pierre. « Je le sais, répondit Liouba avec le même entêtement, mais en évitant son regard. Elle ne voulait pas répondre. Il haussa les épaules et se remit à examiner la fille et à réfléchir. En temps ordinaire, sa pensée était lente et difficile, mais une fois alarmée, elle se mettait à travailler avec une force et une inflexibilité presque automatiques. Elle était pareille à une presse hydraulique qui fend des pierres, courbe des poutres de métal et écrase des gens s'ils tombent sous sa coupe avec indifférence, lentement, fatalement. Sans regarder à droite ni à gauche, dédaignant les sophismes, les allusions, les échappatoires, il actionnait sa pensée lourdement, cruellement même, jusqu'à ce qu'elle commençât à flamber ou qu'elle arrivât à la barrière logique extrême au-delà de laquelle il y a le vide et le mystère. Il ne séparait pas sa pensée de lui-même, il pensait tout entier, pour ainsi dire, de tout son corps. Et chaque déduction logique devenait aussitôt affective pour lui, comme il arrive que chez les gens robustes et simples, qui n'ont pas encore fait de leur pensée un jouet. Et maintenant qu'il était bouleversé, sorti de son ornière, pareil à une locomotive qui a déraillé dans de profondes ténèbres et qui continue par prodige à bondir par-dessus les monticules et les monceaux, il cherchait sa voie et voulait la trouver à tout prix. Mais la fille se taisait, visiblement n'avait nul désir de parler. « Liouba, causons tranquillement, il faut pourtant... Je ne veux pas causer tranquillement. » Il reprit « Écoutez, Liouba, vous m'avez frappé et je ne puis laisser passer cela. » La fille ricana. Vraiment ? Et que voulez-vous me faire ? Vous me citerez devant le juge de paix ? Non, mais je reviendrai ici jusqu'à ce que vous soyez expliqué.
Je vous en prie, autant de gagner pour la patronne.
Je reviendrai demain, je reviendrai. Et soudain, en même temps qu'il pensait qu'il ne pouvait revenir ni le lendemain ni le surlendemain, il devina, il eut la certitude de savoir pourquoi la fille avait agi de la sorte. Il en devint tout joyeux. « Ah, c'est cela ! Vous m'avez frappé parce que je vous ai plainte, parce que ma pitié vous a outragé. Oh oui, en effet, c'était bête de ma part. Pourtant, je ne voulais pas vous offenser, je vous le jure. Mais peut-être était-ce en effet outrageant pour vous. Évidemment, puisque vous êtes un être humain comme moi.
Quelle espèce d'être humain ? Ricana-t-elle.
Allons assez, faisons la paix, donnez-moi la main. Liouba pâlit un peu.
Vous voulez que je vous donne encore une gifle ?
Non, donnez-moi la main comme à un camarade. En camarade, s'écria-t-il avec sincérité, en prenant on ne sait pourquoi une voix de basse. Mais Liouba se leva et, reculant un peu, elle déclara « Écoutez, ou bien vous êtes un imbécile, ou bien on ne vous a pas encore assez battu. » Puis elle le regarda et avec un bruyant éclat de rire « Mon Dieu, je vous le jure, mon écrivain, vous êtes un écrivain de la plus belle eau. Et comment ne vous battrait-on pas, mon petit ?» Pour elle, le mot d'écrivain était à coup sûr une injure. Elle attachait à ce terme un sens particulier et défini. Avec un mépris parfait, absolu, sans prendre garde à lui, le traitant comme une chose, comme un idiot ou un ivrogne, elle se mit à aller et venir, sans se gêner, dans la pièce. Elle lui jeta en passant « Est-ce que je t'ai fait bien mal en te battant? Pourquoi gênes-tu encore ?» Il ne répondit rien. « Mon écrivain prétend que je lui fais très mal quand je le bats. Mais peut-être a-t-il un visage plus aristocratique que le tien. On doit pouvoir taper tant qu'on veut sur ton museau de paysan sans que tu sentes rien. Oh, que de gens j'ai déjà giflés. Pourtant personne ne me fait moins pitié que mon petit écrivain. Bats-moi, bats-moi, me répète-t-il, c'est tout ce que je mérite. » Il est saoul, il bave, il est dégoûtant, même à gifler. Quelle crapule! Et je me suis fait mal avec ton museau. Tiens, embrasse la meurtrissure. » Elle tendit la main vers les lèvres de l'homme et se remit à aller et venir d'un pas précipité. Son excitation croissait. Il semblait par moments qu'elle étouffait dans une atmosphère brûlante. Elle se frottait la poitrine, ouvrait la bouche toute grande pour aspirer l'air et se retenait machinalement aux draperies de la fenêtre. Par deux fois déjà, elle s'était versée du cognac et avait vidé le verre. La seconde fois, il s'en aperçut et il lui fit observer avec maussaderie « Bien, je croyais que vous ne vouliez pas boire seul. » « Je n'ai point de caractère, mon petit, » répliqua-t-elle simplement. Et puis je suis empoisonné, dès que je ne bois pas, j'étouffe. C'est de ça que je crèverais. » Et tout à coup, comme si elle venait seulement de s'apercevoir de sa présence, elle prit un air étonné et dit en riant « Ah, c'est toi, t'es encore là, t'es pas parti ?» Avec un regard sauvage, elle arracha son châle tricoté et de nouveau ses épaules et ses bras minces, délicats et rosés, apparurent. « Mais pourquoi donc avais-je mis mon châle? On le fait déjà trop chaud sans cela, et moi? Oh, c'était pour te ménager. Ah, c'est bien nécessaire. Écoutez, déshabillez-vous. Allô, mon petit. Allô, mon chéri, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Elle riait, et le rire la suffoquait. Elle le priait en tendant les bras. Puis elle se laissa glisser à terre, s'agenouilla et lui prit la main et l'implora. « Allons, mon chéri, mon ami, je vous baiserai les mains. » Il s'écarta et demanda avec une tristesse amère. « Mais pourquoi me tourmentez-vous, Liouba? Que vous ai-je fait? Je n'ai que de bonnes intentions. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Vous ai-je offensé? Si je l'ai fait, je vous en demande pardon. » Je suis si ignorant dans toutes ces affaires. » Liouba haussa avec mépris ses épaules nues, se leva et s'assit d'un mouvement souple. Elle haletait. « Vous ne voulez pas, c'est dommage. J'aurais aimé vous voir. » Il balbutia quelque chose, s'interrompit et reprit en hésitant, en traînant les mots. « Écoutez, Liouba, évidemment, ce ne sont que des bêtises. Si vous le désirez tant, on peut éteindre la lumière. Éteignez, Liouba. » « Quoi ? » fit la fille étonnée en écarquillant les yeux. « Je veux dire, » fit-il précipitamment, que vous êtes une femme, et moi, j'ai eu tort, c'est certain. Ne croyez pas que c'est par pitié, Liouba. Non, pas du tout. Moi-même, je m'éteignais, Liouba. » En souriant d'un sourire embarrassé, il tendit les bras vers elle avec la tendresse gauche de ceux qui n'ont jamais possédé une femme. Et il vit qu'elle avait étroitement entrelacé les doigts, les avait portés à son menton. On lui dit qu'elle s'était transformée tout entière en un immense souffle retenu dans la poitrine soulevée. Et les yeux de la femme s'étaient agrandis et avaient une expression de terreur, de douleur, d'indicible mépris. « Qu'avez-vous, Liouba ?» demanda-t-il en reculant. Avec une froide terreur, elle chuchota, sans desserrer les doigts. « Vaurien, mon Dieu, quel vaurien tu es !» Cramoisi de honte, humilié de l'avoir outragé, il tapa du pied et lança des paroles brèves et insultantes. « Prostituée, fille, tais-toi !» Mais elle hochait la tête et répétait « mon Dieu, quel vaurien tu es !»« Mais silence, canaille, tu es saoul, tu es folle !» Crois-tu que j'ai besoin de toi? Crois-tu que j'ai besoin de ton corps souillé? Crois-tu que je me sois gardé pour une créature de ta sorte? Ordure, tu mérites d'être battu. » Et il leva la main comme pour la souffleter, mais il ne la toucha pas. Mon Dieu, et on a pitié d'elle. Il faudrait les anéantir, ces viles créatures, elles et leurs amants. C'est de moi que tu as osé penser cela ? Il serra avec violence les bras de la femme et la jeta sur une chaise. Tu es un honnête homme, n'est-ce pas ? Tu es un honnête homme. Elle riait avec ravissement, comme si elle eût été en proie à une joie folle. Oui, je suis un honnête homme. J'ai été honnête toute ma vie. Et pur, mais toi, qu'es-tu, toi, ordure, malheureuse dégradée ? « Honnête homme !» répéta-t-elle, ivre d'enthousiasme. « Oui, honnête homme. Après-demain, j'irai à la mort pour les autres, et toi, que feras-tu ? Tu dormiras avec mes bourreaux. Appelle tes officiers, je te jetterai à leurs pieds, qu'ils reprennent leur charogne. Appelle-les !» Liouba se leva lentement. Et quand, surexcité, fier, les narines gonflées, il la regarda. Il rencontra un regard aussi hautain et plus méprisant encore que le sien. Il y avait même comme une lueur de pitié dans les yeux orgueilleux de la prostituée, qu'un miracle avait soudain placé sur les marges d'un trône invisible, d'où elle regardait avec une attention froide et sévère quelque chose de petit, de criard et de lamentable qui se tenait à ses pieds. Elle ne riait plus, elle ne semblait pas émue, et l'œil cherchait involontairement les marches sur lesquelles elle se tenait, tant elle savait regarder de haut. « Qu'es-tu ? » demanda-t-il, sans céder, irrité encore, mais subissant déjà l'influence du regard hautain et calme de la femme. Sévèrement, avec une conviction menaçante derrière laquelle on sentait des millions de vies détruites, une mer de larmes douloureuses, la révolte ardente et incessante de la justice indignée, elle demanda « Mais quel droit as-tu d'être bon alors que je suis mauvaise ?»« Quoi ?» demanda-t-il sans comprendre sur le champ, terrifié par le gouffre qui venait d'ouvrir une gueule noire sous ses pieds. « Il y a longtemps que je t'attendais. » « Tu m'attendais ?»« Oui, j'attendais un honnête homme. Voilà 5 ans que j'attends, peut-être plus. Tous ceux qui viennent ici confessent qu'ils sont des coquins, ce qui d'ailleurs est la vérité. Au commencement, mon écrivain se vantait d'être honnête, et par la suite il m'a avoué qu'il était lui aussi une fripouille. Je n'ai que faire de gens pareils. » « Mais que te faut-il donc ? » ?»« Toi, mon ami, toi. Oui, parfaitement, un homme comme toi. » Elle le toisa avec attention des pieds à la tête, très calmement, en hochant la tête. « Merci d'être venu. » Lui, qui n'avait peur de rien, il se sentit tout à coup mal à l'aise. « Mais que te faut-il donc ? » répéta-t-il en reculant. « Mais j'avais besoin de battre un honnête homme, mon petit, un véritable honnête homme. À quoi bon battre les autres ? On ne fait que se salir les mains. Maintenant c'est fait, et je puis me baiser la main. Bonne main, tu as frappé injuste. » Et elle se mit à rire et baisa sa main droite à trois reprises. Il la regardait d'un air sauvage, et ses pensées, si lentes d'ordinaire, couraient maintenant avec une rapidité désespérée, et en un nuage noir, quelque chose d'horrible et d'irréparable, comme la mort s'avançait. « Tu viens de dire quelque chose, qu'as-tu dit ?»«
J'ai dit, il est honteux d'être honnête, tu ne le savais pas ?»«
Non, » murmura-t-il. Et il s'abîma dans une profonde méditation, comme s'il avait oublié la femme. Il s'assit.
« Eh bien, apprends-le. »
Elle parlait avec calme, et seul le soulèvement de sa poitrine sous sa chemise décelait son émotion intense, le cri tumultueux qu'elle comprimait.
« Eh bien, le sais-tu ? »
« Quoi ? » fit-il en revenant à lui.
« Mais le sais-tu maintenant ? » ?»«
Attends,
j'attendrai, mon ami. J'attends depuis 5 ans. J'attendrai bien encore 5 minutes. »
Elle se laissa tomber sur une chaise, croisa ses bras nus derrière sa tête et ferma les yeux.
« Ah, mon chéri, mon chéri !»«
Tu as dit qu'il est honteux d'être honnête ?»«
Oui, chéri, c'est honteux. »
« Mais alors, c'est... » Il s'arrêta terrifié.
« Oui, oui, cela te fait peur. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est tout d'abord seulement que c'est terrible. »
« Et après ?»«
Reste avec moi, et tu le sauras. »
Il ne comprit pas. « Comment rester avec toi ?» La fille s'étonna à son tour.
« Où pourrais-tu aller après cela ? » « Prends garde, mon ami, ne me trompe pas. Tu n'es pas un coquin, toi. Tu n'es pas comme les autres. Si tu es honnête, tu resteras. Ce n'est pas en vain que je t'ai attendu 5 ans. »«
Mais tu es folle, » dit-il d'un ton tranchant. Elle le regarda avec sévérité et le menaça même du doigt.
« Ne parle pas ainsi. Du moment que la vérité est venue à toi, tu dois t'incliner très bas devant elle et non pas dire « Tu es folle. C'est mon écrivain qui dit « Tu es folle. » Mais lui, c'est une canaille. Toi, sois honnête. »
« Et si je ne restais pas ? » ricana-t-il d'un air sombre, les lèvres blêmies et tordues.
« Tu resteras, » dit-elle avec assurance. « Où irais-tu maintenant ? Tu ne peux aller nulle part. Tu es honnête. » Je l'avais déjà compris quand tu m'as baisé la main. C'est un imbécile, ai-je pensé, mais c'est un honnête homme. Cela ne te fâche pas que je t'ai pris pour un imbécile? D'ailleurs, c'est de ta faute. Pourquoi m'as-tu offert ta virginité? Tu as pensé que si tu me sacrifiais ton innocence, je te laisserais la paix? Ah, Nigo, petit Nigo, tout d'abord j'ai été vexé. Et quoi, pensais-je, il ne me considère pas comme une créature humaine. Et puis j'ai vu que ta réserve était le fait de ton honnêteté. Et tu t'es dit ceci, je lui sacrifierai ma virginité, par là je deviendrai plus pur encore. Ce sera comme une pièce de monnaie enchantée qu'on donne à un mendiant et qui vous revient ainsi et de suite. Non, mon chéri, ça ne se passera pas ainsi.
Non ?
« Non, non, mon petit, » répéta-t-elle en traînant les mots, « je n'accepterai de toi que ce que tu as de plus cher. Peut-être ne me sacrifies-tu ta virginité que parce qu'elle te paraît inutile. As-tu une fiancée ?
Non. » Et si en avais une, qu'elle t'attendit demain devant l'autel, me l'aurais-tu donné, ta virginité ?
« Je n'en sais rien, » répondit-il en hésitant.
« Non, sans doute, tu m'aurais dit, prends plutôt ma vie, mais laisse-moi l'honneur. Tu sacrifies ce que tu as de moins cher. Or, j'exige ce que tu as de plus cher, ce sans quoi tu ne pourrais vivre toi-même. »
« Mais pourquoi, pourquoi ? Comment pourquoi ? Mais pour que tu ne sois pas honteux ?»«
Liouba !» s'exclama-t-il étonné. « Écoute, mais tu es toi-même
honnête, n'est-ce pas ? On me l'a déjà dit. Mon écrivain me l'a répété plus d'une fois. Seulement cela n'est pas vrai, mon chéri. Je suis une véritable prostituée. Tu le verras si tu restes. »
« Mais je ne resterai pas !» cria-t-il, les dents serrées.
« Ne crie pas, mon chéri. Crier contre la vérité ne sert à rien. La vérité vient comme la mort. Accepte-la, quelle qu'elle soit. Il est dur de rencontrer la vérité, mon chéri. Oh, je le sais par moi-même. »
Et elle ajouta tout bas, en le regardant en face, « Dieu, lui, est bon aussi. »
« Alors ?»
« Rien. Il faut que tu comprennes toi-même. Moi, je ne dirai plus rien. Il y a 5 ans que je n'ai pas été à l'église. La voilà, la vérité. »
« La vérité. Quelle vérité ?
Quelle était encore cette terreur nouvelle et inconnue qui n'avait éprouvée ni devant le visage de la mort ni devant celui de la vie ? La vérité. Lui ne savait dire que oui ou non. » Il était assis, soutenant de la main sa grosse tête aux pommettes saillantes et mouvant légèrement les yeux comme s'il examinait la vie d'une extrémité à l'autre. Et la vie tombait en ruine, pareille à une petite boîte close, mouillée par la pluie d'automne, dans laquelle il était impossible de reconnaître le temple si beau et si pur où son âme était renfermée peu de temps auparavant. Il se rappela les chers camarades avec lesquels il avait vécu et travaillé, étroitement unis à eux dans la joie comme dans la souffrance. Ils lui semblèrent étrangers. Leur vie lui parut plus incompréhensible et leur besogne stupide. On lui dit que des mains puissantes s'étaient emparées de son âme, la brisaient comme on brise une canne sur un genou solide, et en jetaient les débris au loin. Il n'était que depuis quelques heures dans cette maison, il y avait quelques heures seulement qu'il avait quitté ses compagnons, et déjà, il lui semblait qu'il était là depuis toujours, en face de cette femme à demi nue, à entendre un bruit de musique lointaine et un cliquetis d'éperon. Il ne savait pas s'il était au-dessus ou au-dessous de ce qui, le jour même encore, constituait sa vie et son âme. Il savait seulement qu'il était hostile à tout cela, et il en souffrait. Il était honteux d'être honnête. Et il comprit soudain, avec effroi, avec une souffrance indicible, que cette vie-ci était terminée à jamais pour lui, puisqu'il ne pouvait plus être honnête. Son intégrité seule le faisait vivre, elle était toute sa joie, elle seule l'armait contre la vie et la mort. Dès qu'elle faisait défaut, rien ne subsistait. C'étaient les ténèbres. Ah, pourquoi était-il venu dans cette maison maudite ? Pourquoi n'était-il pas resté dans la rue ? Ne s'était-il pas livré aux policiers ? Maintenant, il était trop tard, même pour aller en prison.
« Tu pleures ?» demanda la fille avec inquiétude.
« Non, répliqua-t-il d'un ton tranchant, non, je ne pleure jamais. »
« Tu as raison, mon chéri. C'est nous autres les femmes qui pouvons pleurer, mais pas les hommes. Si vous vous mettiez à pleurer vous aussi, qui répondrait à Dieu ?»«
Liouba !» cria-t-il avec angoisse. « Mais que faire ? Que faire ? » ?»«
Reste avec moi. Reste avec moi. Car tu es à moi maintenant. »
« Et eux ? » Elle fronça les sourcils. Qui, eux ? Mais les hommes, tous les hommes, répliqua-t-il avec fureur. Ceux pour qui j'ai travaillé. Ce n'est pourtant pas pour moi, ce n'est pas pour mon propre plaisir que j'ai enduré tant de tourments et que je me suis préparé au crime. Ne me parle pas des autres, dit-elle sévèrement, et ses lèvres se mirent à trembler. Ne me parle pas d'eux, sinon je te battrai de nouveau, entends-tu ? Mais qu'as-tu ? Demanda-t-il étonné. Mais que suis-je, moi, un chien ? Sommes-nous des chiens, nous tous ? Prends garde, mon chéri. Tu t'es caché derrière les gens assez longtemps, ça suffit. Tu ne te déroberas plus aux yeux de la vérité, mon petit. Tu ne pourras te cacher nulle part. Et si tu aimes les hommes, si tu as pitié de notre malheureuse humanité, eh bien, prends-moi. Et moi, mon chéri, je te prendrai.